M. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM très au courant, mais il est question des courants marins, des phénomènes complexes. Un vrai défi radiophonique car vous n'aurez pas d'image ni de schéma pour visualiser ces courants. Ils ont de multiples paramètres, des effets qui vont au-delà de l'océan, en direction du ciel, donc de la Terre, car ils agissent aussi sur le climat. Nous y voilà. On ne peut pas parler de changement climatique sans évoquer les courants marins, d'autant plus qu'on lit régulièrement dans la presse que notre courant, le Gulf Stream, a dératé, que s'il s'arrêtait, nous en Bretagne, aurions droit à un climat digne du Canada, voire de l'Alaska. On en frémit. Pour nous aider à visualiser aujourd'hui dans l'EM, une courantologue, Pascale Lherminier, chercheur en océanographie physique à l'IFREMER, au LOPS, le laboratoire d'océanographie physique et spatiale. Bonjour Pascale Lherminier.
Bonjour Véronique.
Alors qu'est-ce qu'un courant marin déjà tout simplement ?
Oh, la définition est très très large. Là, un courant marin, c'est une masse d'eau salée qui se déplace dans une direction donnée. Donc ça regroupe énormément de choses.
Alors par exemple, ça peut être bon, un phénomène très ponctuel, très, très localisé, mais en ce qui vous concerne, enfin, les courants, les grands courants marins, quelle est l'échelle déjà ?
Donc les courants que j'étudie, ce sont à l'échelle des bassins océaniques. Donc par exemple, dans l'Atlantique comme dans le Pacifique, il y a quatre grandes boucles de courants qu'on appelle nous dans notre jargon des gyres et qui font plusieurs milliers de kilomètres de diamètre.
Ah, de diamètre, hein,
c'est à peu près, c'est pas tout à fait rond, c'est un peu aplati, mais c'est à peu près l'échelle.
Donc on les voit, on les visualise, ces courants.
On les visualise en particulier depuis que nous avons l'altimétrie spatiale qui permet donc de voir indirectement les courants de surface, on les visualise extrêmement bien, oui.
Donc c'est par satellite que se font les mesures, quoi.
On mesure les courants, alors on pourra en revenir là-dessus, mais on mesure les courants par satellite, parce que le satellite va mesurer les différences des niveaux de la mer. Et cette différence de niveau de la mer crée des différences de pression dans la mer, à l'intérieur de l'eau entre deux points. Et ces différences de pression, ça génère des courants exactement comme dans l'atmosphère. Vous voyez les tempêtes, ce sont des cyclones et des anticyclones. Et ce sont des différences de pression qui mettent les masses de fluide en mouvement.
Et ces grands courants, ils ont une vitesse, je suppose. Enfin, c'est toujours à peu près la même vitesse.
Oui, contrairement à l'atmosphère, les courants marins vont beaucoup plus lentement. Et typiquement, c'est la vitesse d'un homme au pas.
Ah oui, c'est très lent, si j'ose dire.
Oui.
C'est pour ça qu'on ne les voit pas forcément à l'œil nu. Enfin, quand
voilà.
On est, oui, d'accord, je
voilà.
Comprends.
C'est pas absolument évident. Sauf que c'est sur des millions de mètres cubes. Donc, en fait... Si par exemple on se place en Atlantique Nord et on regarde ce que la dérive nord-atlantique, donc qui est le prolongement du Gulf Stream hein, et qui part vers l'Arctique, cette dérive nord-atlantique qui vient donc des US, enfin la côte des US et qui part vers le Groenland, elle transporte l'équivalent de 100 000 gigawatts, quoi, 100 000 cœurs nucléaires.
En énergie.
En énergie. Non, donc ça va lentement, c'est vrai, mais la masse, le volume qui est déplacé est tellement énorme qu'en fait ça fait une énergie qu'on a du mal à imaginer.
Oui, en effet. Là, on peut parler de force tranquille alors dans le cas de ces
Exactement,
courants.
Je les appelle toujours les géants silencieux.
C'est beau, on peut être poète et physicienne. Et de quoi est-ce qu'ils dépendent ? Enfin, qu'est-ce qui les forme, ces courants alors ? Qu'est-ce qui les fabrique ?
Alors ces courants, en fait, ces grands courants, ils ont trois forces motrices, enfin deux réelles et une force liée à la rotation de la Terre. Donc il y a le vent qui par friction emporte les masses d'eau de surface et par compensation, en fait, ça crée tout un mouvement. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les différences de pression. Ces différences de pression, elles sont générées par le fait que l'eau n'a pas la même température, la même salinité partout. Et cette température et cette salinité, elle va jouer sur la densité de l'eau de mer. Ça, c'est un concept que tout le monde ne comprend pas forcément, mais c'est en gros le poids d'un litre d'eau de mer n'est pas le même dans le Gulf Stream ou dans l'Arctique.
Plus il y a de sel, plus c'est léger ou plus c'est lourd. D'accord.
Ça, c'est logique. Mm-hmm. Plus il y a de sel, plus c'est lourd. Et plus c'est froid, et plus c'est lourd.
Ok. Plus de densité. D'accord. Oui. Donc, vent, température et salinité et...
Et la force enfin, générée par la rotation de la Terre, qu'on appelle la force de Coriolis, qui est une force liée au fait que les courants, ils voudraient bien aller tout droit d'un point à un autre par rapport aux étoiles. Mais comme notre Terre elle tourne, finalement, les courants, ils tournent.
Comme quand on regarde le siphon de son lavabo, on voit très bien. Alors, ça, c'était l'exemple qu'on nous citait toujours.
C'est vrai, mais en fait, le siphon, il est trop petit pour être affecté par la force de Coriolis.
Bon,
mais
d'accord, bon. Tant pis, j'aurais essayé.
Donc, c'est souvent ce qu'on me dit, mais non, ça marche
oui,
pas.
Bah oui, bon, tant pis. Alors, on peut supposer que ces courants, du coup, ont toujours existé, depuis qu'il y a des océans sur Terre. Est-ce qu'on a moyen de savoir quels étaient les courants il y a quelques millions d'années? Est-ce qu'il existe une paléocourantologie?
Il y a de grands travaux. Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais il y a beaucoup de travaux sur la paléo-océanographie. Oui, tout à fait. Et on pense que à la dernière débâcle des grands glaciers du Canada, la Laurentide, on appelait ça, on pense d'ailleurs que le courant dont je vous parlais, donc qui va apporter cette chaleur vers l'Arctique, a été coupé et en fait raboté vers le sud. Parce qu'à cause des glaces de mer qui s'étendaient un peu partout, il n'y avait plus l'effet du vent et du refroidissement sur les eaux de surface qui faisait qu'elles plongeaient vers le fond. Et donc cette boucle de courant verticale était affaiblie et placée beaucoup plus vers le sud.
Ça, on a pu l'identifier, enfin le savoir,
oui.
Quoi.
On le voit dans les carottes. Oui, d'accord. Tout à fait. Dans les carottes, on mesure en fait des isotopes qui nous renseignent sur la température et sur d'autres paramètres de l'eau. Et ce qui nous disent si elle a été ventilée ou pas, si elle a été en contact avec l'atmosphère et toutes ces choses-là.
Donc ces courants pas si insaisissables que ça?
Non, mais c'est assez indirect et ça fait pas si longtemps que ça qu'on les mesure vraiment systématiquement à grande échelle. En fait, ça fait depuis le milieu du XXe siècle qu'on commence à avoir suffisamment de mesures pour vraiment, vraiment voir en détail comment la circulation a changé.
Ah oui, parce que voilà, donc c'est un peu le problème, c'est que ça change. C'est qu'en en fait, la vie d'un courant n'est pas un long fleuve tranquille.
Voilà. Les grandes forces restent les mêmes et les grandes boucles de courant qu'on voit dans l'Atlantique Nord, les deux grandes boucles qu'on appelle gyre subtropical et gyre subpolaire, ces deux-là sont là, elles restent. Mais le chemin qu'elles prennent et leur force, leur intensité, bouge. Oui.
Beaucoup ? Enfin, comment, tous les combien ?
Ah. Alors, ça change dans l'Atlantique Nord, on a toutes les échelles de temps. Donc ça change d'année en année. Ça change aussi, on voit très très bien que de décennie en décennie, ça change.
Donc les trajectoires plutôt que les... Enfin les trajectoires, les parcours plutôt que la vitesse ou la largeur.
Ah. Les deux, tout. Mmh. L'ensemble. Et il y a pas mal de papiers où on pense que d'ailleurs ça a changé depuis 150 ans jusqu'à maintenant. Mais ces papiers-là sont plus appuyés sur des approximations de la température de surface de la mer et tout le monde n'est pas d'accord. Il y a encore beaucoup de débats là-dessus.
Bon, en tout cas, de toute façon, ça fait, comme ça fait assez peu de temps qu'on les mesure, c'est ça aussi le
oui,
problème.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a 150 ans,
il n'y avait pas de mesure des courants.
Voilà, tout est indirect.
D'accord. Et alors, vous étudiez donc deux grands courants principalement, mais sinon, dans l'ensemble du globe, les grands courants marins, ils sont combien, en gros, il y en a...
En fait, il y en a sur tous les bords ouest des océans, qui sont assez intenses. Et on peut citer le Gulf Stream, bien sûr, puisque c'est ceux qu'on connaît, mais son homologue dans le Pacifique s'appelle le Kuroshio. Voilà. Son homologue dans l'océan Indien s'appelle le courant des aiguilles. Il y a le courant du Brésil, il y a tous les bords ouest ont leur courant de bord ouest.
Mais de l'océan, pas de
l'océan. Enfin,
ouais, pas de, la Méditerranée n'a pas son courant de bord.
Ah non, c'est une mer très fermée et elle a une dynamique un petit peu différente. Ouais.
Elle a des petits courants quand même.
Elle a même des gros courants, mais c'est pas tout à fait géré de la même façon.
Et les courants, les grands courants donc océaniques, ce sont eux qui ont un impact sur le climat. Enfin, elles sont les seules à avoir un impact sur le climat. Et puis comment, enfin, comment est-ce qu'on l'estime cet impact? Ça fait deux questions.
Oui, ça fait deux questions et c'est deux questions compliquées en plus.
Alors, c'est pas rond. Alors, déjà, quel impact
alors,
peut-être ?
Alors, sur le climat, déjà, est-ce que ce sont les seuls ? Sur le climat global, oui. Je pense qu'on peut dire que ce sont les causes prédominantes. Après, localement, régionalement, des changements de courant peuvent affecter notablement le climat local, évidemment. Mais,
par exemple, pour ce qu'on appelle les phénomènes Niña-Niño, c'est le cas, c'est ça ?
C'est un phénomène qui est à grande échelle, qui est généré en fait, au niveau de l'équateur, enfin, des tropiques du Pacifique, vraiment au centre du bassin. Mais après, il y a une propagation de cette anomalie qui fait que ça va couper... En fait, ça va couper l'upwelling qui est sur les côtes d'Amérique du Sud.
Donc c'est un autre courant, un autre type de courant.
Alors l'upwelling, oui, c'est une remontée d'eau profonde qui apporte beaucoup de nutriments, qui est provoquée par le vent. Et quand cette upwelling est coupée, finalement, c'est localement, il y a un changement de climat de l'océan dans le sens où il n'y a plus de nutriments, donc il n'y a plus de poissons. Et donc, c'est une catastrophe économique pour les pays qui ont cette frontière avec l'océan.
Mais comment est-ce que les courants peuvent influer sur les pluies, la chaleur, enfin le climat proprement dit. Est-ce que c'est les courants qui influent ou est-ce que c'est l'inverse, c'est le climat qui influe sur les courants ?
Alors, en fait, on voit très très bien, enfin, il y a beaucoup plus d'études sur l'impact du climat sur les courants que sur l'impact des courants sur le climat.
D'accord.
Je mettrai une petite exception, peut-être avec l'influence de cette circulation dont je vous ai parlé, qui apporte les eaux chaudes vers l'Arctique, où là, si elle est coupée, mais ce n'est pas le cas, si elle ralentit notablement, ce qui est prévu dans les modèles de climat. Uh-huh. Les modèles de climat pensent que ça va ralentir.
Notre Gulf Stream, entre guillemets, Gulf Stream est prolongement.
Son extension vers le
d'accord.
Nord. Si ça, parce que le Gulf Stream, lui, il ne peut pas bouger. Il est géré par la rotation de la Terre et par les différences de température et de salinité. Et ça on ne pense pas que ça puisse vraiment bouger. C'est de la physique dure.
D'accord. Mais la grande circulation dont il fait partie, elle, peut bouger.
Mais sa branche qui va vers le nord, elle peut tout à fait ralentir. Ça veut dire que l'Écosse ne sera plus baignée dans les eaux du Gulf Stream, par exemple. Ou bien même la Norvège. La Norvège, si elle n'est jamais englacée ou très peu englacée, c'est grâce à ce courant. Et donc, si ce courant ralentit, on va avoir plus de glace qui se propage le long de cette côte. Ça va faire des changements majeurs dans le climat de la Norvège, de l'Écosse et un petit peu chez nous.
D'accord. Donc ça, c'est comment le courant influe sur le climat. Mmh. Mais sinon, vous dites, la plupart des études, c'est comment le climat influe sur les courants.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça donne, ces études, alors ?
Depuis qu'on met des flotteurs et qu'on a vraiment des sondes dans l'océan qui nous donnent une vision 3D de l'océan, et ça c'est depuis les années 2000, donc ça fait pas longtemps, on voit que l'océan se réchauffe, ça c'est clair. C'est pas gigantesque. C'est un dixième ou deux dixièmes en global. Hein. Mais c'est quand même énorme pour l'océan. On voit que l'océan s'acidifie.
Le CO2 qui est capté, c'est ça ?
C'est, en fait, l'océan est un milieu basique, mais le CO2 est un acide. Et le CO2, quand il pénètre dans l'océan, il s'équilibre avec... tous les carbonates qu'il y a dans l'océan. Et du coup, en réagissant, l'océan va être moins basique. Je préfère dire qu'il est basique parce que tout le monde pense que ça va devenir acide.
Comme du citron, mais non.
Non, ça ne va pas devenir acide. Ça reste un milieu basique. Mais on perd, on a perdu quelques centièmes de pH. Et ça aussi, c'est un gros souci parce que c'est à la base de toute la chaîne... trophique, par exemple les coraux froids ou bien
les coquilles d'huîtres,
tout ça, tous ces organismes ont impérativement besoin de cette basicité, c'est un néologisme, mais c'est pas grave, pour croître.
D'accord. Donc, on constate, grâce à vos flotteurs, donc, acidification, température qui s'élève et...
Ça, ce sont les grands. Et pour les courants, eh bien, on voit, il y a une telle variabilité. Enfin, ça bouge tellement d'une année à l'autre et d'une décennie à l'autre qu'on n'arrive pas à dégager la tendance qui est vue dans les modèles de prédiction à 100 ans. On la voit pas parce que ça fait, pour le moment, finalement, on a des mesures vraiment fiables que depuis les années 90. Donc, on n'a que deux décennies et demie. Trois maintenant de recul. Et ce qu'on voit essentiellement, c'est des grands cycles à une dizaine d'années, mais qui sont vraiment notables. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours chez nous, on a eu une décennie dans les années 2000 où on avait la neige quasiment tous les hivers.
Oui.
Après, on n'a plus du tout. Et il fait très doux.
Oui, voilà. Ça, surtout aujourd'hui.
Et la décennie d'après, ça va repartir probablement vers un peu plus froid. Donc ça, c'est l'effet atmosphérique qu'on ressent. Et bien, cet effet atmosphérique joue, c'est un ordre 1 sur comment l'océan réagit.
Donc là, ouais, c'est vraiment l'atmosphère qui a agi sur les courants. Ouais. On est sûr que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Enfin...
Alors, on est en train d'étudier comment les courants et justement la température de l'eau va rétroagir sur les grands systèmes atmosphériques. Mais là, on avance vraiment à pas compter, parce que c'est un problème pas simple. Mais on pense effectivement que les grands équilibres atmosphériques, en fait, ça fait une espèce de balancier. Quoi.
C'est ça. Ben oui, ils interagissent l'un l'autre. Voilà. Enfin, ça paraît quelque part logique. Ouais.
Mais pour le moment, on n'arrive pas à le prouver. Et on est vraiment dessus, parce que c'est un clé pour tout comprendre et pour surtout voir l'avenir. Quoi.
Et qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement, vous, alors, en tant que courantologue ?
Pour l'océan.
Ouais.
Pour l'océan, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'acidification. C'est vrai que les courants, ils vont vivre leur vie, ils vont trouver un passage. Enfin, je veux dire, ça va. Et puis Mais l'acidification, ça va profondément changer les écosystèmes marins. On espère que va y avoir une adaptation rapide. On sait que certaines espèces s'adaptent très très rapidement, donc faut pas être trop pessimiste, mais je dirais que ça va être le problème d'ordre 1. Et après, c'est le réchauffement.
Et vous l'avez évoqué justement avec les upwellings, les courants en fait ont aussi un impact sur la biodiversité eux-mêmes. Enfin, je veux dire, est-ce que ce sont des milieux écologiques, les courants eux-mêmes ?
L'écologie, un milieu écologique est composé de paramètres physiques, dont les courants, température, salinité, etc., de paramètres chimiques, l'acidité, les nutriments, enfin là ça devient de la biogéochimie ce qu'on appelle, et puis de paramètres biologiques. Mais une écologie, si elle est bien prise en compte, englobe tous ces paramètres-là. Donc oui, les courants font partie de la définition d'une niche écologique. Oui.
Il y a des espèces à courant ? Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Mais...
Ah bah, il y a des espèces à courant, oui. Il y a des espèces comme le thon ou bien même les tortues qui utilisent les courants pour migrer. Donc oui, il y a des espèces à courant. Et il y a des espèces même qui ne s'appuient que sur les courants pour bouger. Mais là, ce n'est plus mon domaine, donc je n'en sais plus.
Oui, parce que vous êtes physicienne et pas biologiste.
Ça, je sais ce que tout le monde sait, quoi. Pas plus.
Et donc vous regardez la salinité, les températures. Vous regardez la vitesse aussi des courants. Qu'est-ce que vous observez en termes de ce côté-là ?
Déjà, ce qui est fascinant, c'est la façon dont on mesure la vitesse.
Oui, comment ?
Ouais. Ouais. Déjà, au début, on utilisait une corde à nœuds derrière les bateaux. Non, mais au 19e siècle, c'est nous. C'est les premières mesures du Gulf Stream avec Benjamin Franklin au 18e siècle, elles ont été faites comme ça. Hein. Donc, c'est une corde à nœuds derrière le bateau qui permet de déterminer la vitesse du bateau. Et comme la vitesse du bateau, en fonction de la force du vent, on sait à peu près ce que c'est, on en déduit la vitesse du courant qui freine ou qui accélère.
D'accord.
Et donc, on comptait le nombre de nœuds qui restait à la surface.
Ah, d'accord.
D'où la mesure en nœuds.
Bon, d'accord.
Donc, la vitesse des courants, au début, c'était comme ça. Puis, on a commencé à mettre des courantomètres avec des hélices. tout simplement. On mesurait comme
sur
comme...
des bouées, alors. Non,
non, dans l'eau, ouais. un peu comme des anémomètres, mais d'accord. Sauf qu'on les mettait avec un gouvernail de façon à ce qu'ils soient toujours dans le sens du courant, et l'hélice qui tournait nous donnait son intensité. Donc d'accord. On avait avec un compas, on avait la direction grâce au gouvernail. Et puis avec l'hélice, on avait l'intensité du courant. Et puis dernièrement, ça fait 30 ans maintenant, qu'on utilise l'effet Doppler pour mesurer les courants.
Le fameux effet sur l'éloignement.
Voilà, le truc qui fait...
L'éloignement, les voitures qui passent.
L'effet Doppler qui fait que quand on envoie une onde et qu'elle se réfléchit sur un obstacle et qu'elle revient, elle ne va pas revenir exactement avec la même fréquence. Selon si la particule sur laquelle elle a été réfléchie est en mouvement, à ce moment-là, la fréquence avec laquelle elle revient va changer. Et on mesure la différence de fréquence, et c'est proportionnel à la vitesse de l'obstacle contre lequel elle s'est choquée. Donc, cet effet Doppler, maintenant, on commence à vraiment le maîtriser bien, et on est capable même de faire des profils de courant.
Et alors, vous constatez des variations de vitesse, ou pas ?
Alors, dans l'océan, il n'y a pas que des courants, il y a des ondes. Comme je vous disais, il y a les courants liés aux vagues, il y a les courants liés aux marées, évidemment.
Un vrai bois.
Je n'ai pas parlé de la Lune, mais elle joue son rôle aussi. Mais
c'est vrai, pour les marées, oui.
Voilà. Oui, ça bouge tout le temps, mais tellement tout le temps qu'on est obligé de faire des synthèses et regarder des grands équilibres pour voir si les choses bougent. Mais oui, ça... On revient tous les deux ans avec les campagnes au vide sur les mêmes points. C'est jamais le même profil de courant.
Oui, donc c'est difficile de donner une tendance. Alors comment se fait-il que vos collègues disent, projettent que le Gulf Stream, le courant nord-ouest, nord-ouest, c'est ça, hein, ralentit, enfin pourrait ralentir. C'est juste une hypothèse. Qu'est-ce qui leur indique ça?
Alors, on simule l'océan. On fait des modèles informatiques qui nous permettent de simuler l'océan. Et l'océan, ça paraît fou, mais il est géré par 5 équations physiques.
Seulement.
Seulement. Bon. Et ouais, comme l'atmosphère, c'est pareil. Enfin, l'atmosphère, il y a en plus ces effets de condensation. Mais il n'y a que 5 équations à la base. Mais elles sont compliquées parce que toutes les dimensions sont entremêlées. Donc les résoudre exactement, dans le cas général, ce n'est pas possible. Donc, on fait des approximations. Et en plus de ça, on ne peut pas résoudre au millimètre. Hein, l'océan, ça ferait trop de calculs. Donc, on est obligé de faire des petits cubes. On décompose l'océan en petits cubes qui font typiquement entre, je dirais, 100 mètres pour les modèles les plus évolués jusqu'à 200 km ou 100 ou 200 km pour les modèles climatiques.
Et les cubes ne sont pas si petits.
Ouais. Et oui. Voilà. Mais comme il n'y a que 5 équations et que les grands équilibres sont gérés par ces 5 équations, on arrive quand même à projeter et faire des modèles qu'on arrive à projeter vers l'avenir.
Et donc là, c'est une des projections en fait, qui prévoit un ralentissement de ce courant.
Ce n'est pas une. On utilise plein de modèles. C'est le GIEC qui fait la synthèse de tout ça, parce que le travail est fait dans les équipes et le GIEC fait la synthèse. Donc le GIEC prend tous les modèles de climat disponibles, ce qui fait un ensemble, ce qu'on appelle un ensemble, et ensuite fait des probabilités. Et il y avait 80% de probabilité dans les modèles pour que cette dérive nord-atlantique qui va vers la Norvège ralentisse d'ici 100 ans.
100 ans. Et donc, ça se traduirait en termes de climat, vous l'avez un petit peu dit.
Oui.
Pour la Bretagne, ça serait quoi, en gros le...
En fait, on est vraiment à la limite où c'est sensible. Parce qu'on est essentiellement influencé par le stockage et déstockage de la chaleur saisonnièrement.
Oui.
C'est ça qui influe sur notre climat d'abord. Effectivement, on a un petit gain de chaleur avec cette dérive nord-atlantique, mais ce n'est pas phénoménal. Ah oui. À partir de l'Écosse, c'est 50% de leur... la douceur de leur climat par rapport à la latitude équivalente de votre côté, qui dépend de cet apport par le Gulf Stream indirectement.
Ah oui, donc c'est l'Écosse et au-dessus qui aurait vraiment froid, qui perdrait beaucoup. Quoi.
Ah bah, là, ils n'auraient pas de réchauffement climatique.
Oui, ils auraient un refroidissement drastique. Et alors, en tant que chercheur, vous nous avez déjà fait partager vos recherches, mais en tant que citoyenne, alors qu'est-ce que vous voudriez dire en conclusion, si vous avez quelque chose à dire?
Ça, c'est mon avis personnel.
Oui, oui,
pas
oui.
De mon employeur.
On est d'accord.
Je pense qu'il faut choisir ses batailles et que la bataille d'aujourd'hui, c'est vraiment le climat. Et on doit enrayer ça par tous les moyens possibles et toutes les initiatives locales sont à encourager. Et tout, il faut arrêter de gâcher, il faut arrêter de se chauffer inutilement, il faut arrêter les déplacements qui n'ont pas de sens. Il faut absolument trouver toutes les idées possibles et imaginables pour limiter le CO2. On est déjà bien trop haut et le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il est là pour 100 ans. Donc on a déjà bien hypothéqué sur notre avenir et il faut absolument que tous ensemble, on fasse quelque chose au niveau local d'abord, parce que c'est aux citoyens de se bouger, et aussi par percolation au niveau des régions, du gouvernement central, etc. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Donc, si les autres pays ne suivent pas, c'est vrai que ce sera un coup de bâton dans l'eau, mais au moins on aura essayé et on ne peut pas ignorer ce problème. Et c'est une bataille à mener.
Merci Pascale Lherminier, merci d'avoir partagé vos recherches et puis vous pourrez bien sûr écouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion. À bientôt.
À bientôt.
L'émission.